Vous écoutez RTL. RTL midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Rebière.
Vincent Parisot.
Et c'est à vous, au 32-10, pour réagir à l'attentat de Manchester qui a fait donc 22 morts et une soixantaine de blessés, dont beaucoup, beaucoup de jeunes gens, beaucoup d'adolescents et parfois même des enfants. Ça fait réagir Christopher qui est à Levallois. Bonjour.
Bonjour
Christopher, bonjour. Vous intervenez régulièrement dans cette émission, souvent lorsqu'on parle de la Grande-Bretagne qui en a gros sur le cœur aujourd'hui. Hein.
Voilà, oui, moi je suis arrivé il y a longtemps, moi j'habitais à Chester, qui est à côté de Manchester, C'est une très vieille ville de l'Angleterre, et je suis, quand j'ai entendu tout ça ce matin sur RTL, j'étais vraiment, vraiment, vraiment triste, bien sûr, mais... J'ai regardé et j'ai écouté beaucoup de choses et je ne comprends pas comment, je ne veux pas critiquer les agences de sécurité bien sûr, mais comment on peut laisser les gens entrer dans des endroits comme ça avec les sacs à dos? C'est ça que je n'ai pas compris. On sait que c'était dans le sac à dos.
Il n'était pas à l'intérieur de la salle, Christopher, c'est toute la difficulté.
Non mais même, on ne se promène pas autour avec un sac à dos. Maintenant, s'il y a un événement public comme ça, on se promène les mains dans la poche, une veste éventuellement, une chemise, un pull et tout ça, mais un sac à dos, on ne doit pas laisser à 100 mètres.
Oui, on se souvient d'ailleurs que dans le métro de Londres, enfin lors des attentats du métro, les terroristes étaient équipés aussi de sacs à dos piégés. Hein. C'était déjà des sacs à dos. Il faudrait vous penser, Christopher, parce que même lorsqu'on n'est pas dans une zone sécurisée, que les gens qui sont porteurs d'un sac à dos doivent à tout moment l'ouvrir lorsqu'ils croisent un policier,
même,
par exemple.
Même pas ouvrir, parce que si un kamikaze va s'exposer, il va le faire quand l'agent de sécurité va le faire ouvrir sans acte. Heureusement qu'ils sont là, les agents de sécurité. Franchement, la police, les agents de sécurité, nous avons vraiment de la chance de les avoir.
Non, on ne peut pas interdire les sacs à dos, Christopher, si.
C'est ça le problème.
Si.
Dans tout l'espace public
même le métro.
Oui, parce que là, effectivement, c'était une zone qui menait à la gare. Donc, on est.
Peut-être qu'on y viendra, Christopher. Peut-être qu'on y viendra, l'interdiction des sacs à dos.
Si ça sauve une vie, ça vaut le coup.
Évidemment. En tout cas, merci. On sait que les Britanniques, comme vous, ont beaucoup de chagrin, Christopher. On pense à vous. À bientôt.
Merci beaucoup. Merci, au revoir.
RTL midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Rebière.
Vincent Parisot.
Et nous écoutons toujours vos réactions, votre émotion. Vous êtes nombreux à nous appeler au 3210 après l'attentat de Manchester à la sortie d'un concert d'Ariana Grande. Bonjour Eric.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour Eric. Vous êtes à Newcastle. Hein.
Absolument oui, à Newcastle. Bien loin de Manchester, mais nos pensées les plus sincères vont quand même aux familles des personnes décédées et puis à celles des nombreuses victimes. C'est horrible. Je ne comprends pas encore pourquoi est-ce qu'on peut s'attaquer à de jeunes enfants. Je ne comprends pas pourquoi on pourrait s'attaquer à des adultes, mais encore là, de jeunes enfants. Certains avaient 8 et 9 ans, d'après les rapports de la radio britannique. Ça démontre qu'on ne peut avoir aucun respect pour ces terroristes si eux ne respectent même pas leurs propres enfants, parce que je suis sûr qu'il y avait parmi les jeunes qui assistaient à ce concert, certainement des jeunes musulmans qui voulaient passer une bonne soirée. Donc,
Eric, qu'est-ce qui domine aujourd'hui, alors chez vous, puis peut-être dans votre entourage, ce que vous avez vu depuis ce matin à Newcastle, c'est le chagrin, comme je disais, ou la colère?
C'est les deux. Le chagrin pour le rappel des attentats qu'il y a eu les années précédentes à Londres, qui ont fait énormément de victimes, et la colère aussi, bien que nous ayons le plus grand respect pour nos responsables et tous les professionnels de la sécurité, on se demande quel est le secret pour faire cesser ces attentats, quel est le secret pour... J'écoutais l'auditeur précédent qui disait...
Oui, on cherche.
Exactement, et c'est tout à fait normal, et il faut que les gens sachent, ils sont patients, on a un sac à main, on l'ouvre, on a un sac à dos, on l'ouvre, mais il y aura quand même quelque part quelqu'un qui risquera à passer. J'écoutais la radio ce matin, il y avait une mère, je ne sais pas si son enfant était victime ou pas, ou rescapé, qui disait il pensait à chercher les sacs à main plutôt pour voir s'il n'y avait pas de l'alcool rentré dans les lieux, que pour autre chose. Donc, il faut trouver la solution. Malheureusement, nous ne l'avons pas, et c'est pour ça qu'il faut donner, souhaiter le meilleur courage aux professionnels de la sécurité pour qu'ils fassent leur travail comme il faut.
Mais aujourd'hui, dans le quotidien, quand on vit en Grande-Bretagne comme vous, Eric, il y a beaucoup de sécurité partout. Elle est très visible, comme c'est le cas en France. Il y a beaucoup de fouilles.
Moins. Moins. Oui, moins. Je vois que on peut rentrer dans un train. Bon, pour maintenant avoir accès au quai, il faut, bon, dans une ville comme Newcastle, il faut avoir un billet.
Ouais. Oui. Ça c'est nouveau, ça.
Non, ça fait quand même quelques années.
Ouais.
Mais c'était mis en place plus pour éviter que les gens montent dans le train sans billet.
Oui, c'est plus pour une histoire de fraude que pour une histoire de sécurité.
De sécurité, exactement. Sinon, au niveau sécurité, vous pouvez rentrer dans un train avec trois valises et puis.
Mais est-ce que c'est vraiment possible de sécuriser des gares? On voit que les gares, c'est très compliqué à sécuriser. Elles sont ouvertes sur la ville, hein, de plus en plus, les gares. On se disait, par exemple, à Paris, le réseau du métro, vous avez plusieurs centaines de stations qui, elles-mêmes, ont plusieurs accès.
Oui.
Ça fait quasiment plus d'un millier d'accès à sécuriser. Ça paraît impensable. Restez avec nous, Eric. Hein. On vous garde en ligne de Newcastle.
Okay, merci,
mais
oui.
Parce que Didier veut intervenir, justement, pour nous dire que peut-être... Enfin, on aura du mal à gagner ce combat. C'est ce que vous voulez nous dire, Didier?
Absolument. En résumé, c'est ça.
Bonjour.
Quoi. Il y a plein de paramètres. Oui. Quelqu'un qui n'a pas le respect pour sa propre vie, quelque part, et leur rêve, c'est de mourir en martyr.
Mmh.
Donc déjà, alors en plus, ils font un tort considérable vis-à-vis de votre collaboratrice aux musulmans de base, pour dire un terme, voilà quoi. Et puis comment...
L'idée, c'est de fracturer les communautés, de monter les communautés les unes contre les autres.
En plus, ça a un taux financier énorme. En 2015, on a perdu 1,5 million de touristes, je ne parle pas pour les autres pays, forcément.
Ouais.
Donc, quelque part, c'est extrêmement grave. Moi, j'ai 58 ans, et tous les jours, quand j'allume la télévision, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer demain, quoi. Hein. Et en plus, les policiers anglais ne sont pas armés, alors ça, c'est un autre débat, bien sûr.
Mmh.
Mais quelque part, ça n'aura rien pu faire pour ce qui s'est passé hier soir. Mais bon, il y a un jeune policier qui a été massacré à coups de couteau il y a 2 mois, je crois, à Londres, 2 ou 3 mois.
Oui.
Et il aurait été armé, peut-être qu'il aurait pu sauver sa vie.
Ça fait débat chez vous, en Angleterre, Eric?
L'armement des policiers, on en parle ou pas?
Oui, on en parle. J'avais des amis qui étaient très haut placés dans la police et eux-mêmes refusent de porter des armes.
Mmh. Mmh. Oui, c'est une règle ancestrale.
Ils disent même le jour où les policiers britanniques, donc le fameux Bobby, commencera à porter une arme, on rentrera dans une autre ère qui n'est pas celle pour laquelle ils se sont engagés.
Mmh. Oui, mais est-ce qu'on n'y est pas dans cette ère désormais, Eric?
Vous avez des commandos armés spécialisés qui sont dans chaque ville, qui sont prêts à intervenir s'il y a des problèmes dans la rue. Mais armés, chaque policier, je ne sais pas, je ne suis pas professionnel, c'est très difficile de commenter le pour ou le contre.
Non, en tout cas, ce qu'on sent à travers votre témoignage, c'est que l'opinion publique n'est pas prête en Angleterre.
L'opinion publique en Angleterre n'est pas prête à ça. Avoir aussi, il y a quand même pas mal de bévues, et vous savez, vous donnez à quelqu'un l'uniforme et une arme, aussi, il y a de l'autre côté...
Oui, il y a toujours des risques, bien sûr.
Pour un ticket sur le pare-brise, il va vous dégainer son arme. On n'est jamais protégé comme il le faut. Il faut juste, je pense, changer les mentalités. Ça prendra énormément de temps. Mmh. Et encore une fois, ces gens qui attaquent, ces gens qui se font sauter, ce sont des isolés.
Mmh.
Comment pouvez-vous contrôler des isolés comme cette personne qui a conduit sur le pont de Westminster il y a quelques mois?
Ouais.
Ce sont des isolés. Que peut-on faire contre ces gens-là? Je ne sais pas.
Mmh. À l'instant, une réaction de la reine d'Angleterre qui nous parvient juste tout de suite. La reine condamne, je cite, un acte barbare. Voilà, on avait entendu Theresa May, la première ministre, mais pas encore la reine.
Et puis on a Patrick qui veut également intervenir. Patrick qui est dans le Val-de-Marne et qui a entendu, on l'a relayé dans le journal, la proposition de Poutine, qui ce matin a dit qu'il était prêt à développer la coopération antiterroriste avec les Anglais, peut-être avec les Européens. Ça fait réagir Patrick. Bonjour Patrick.
Bonjour Christelle, bonjour Vincent.
Bienvenue.
Merci. Alors oui, depuis même pas mal de mois, on entend Vladimir Poutine qui tape du pied en faisant des appels à la fois aux Européens, aux Anglais, aux Américains, en disant le combat antiterroriste se mènera tous ensemble.
Mm-hmm.
Le problème, c'est que pour des histoires économiques ou autres avantages, je ne sais pas, tout le monde ferme les oreilles et voilà le résultat aujourd'hui.
Mm.
Je voudrais revenir quand même...
Mais est-ce qu'une collaboration internationale dans la lutte antiterroriste peut empêcher? Alors on ne sait pas si c'était un homme isolé, hein. Il y a peut-être l'un de ses complices qui a été arrêté, mais est-ce qu'on peut tout empêcher, comme le disait Didier, est-ce que le combat n'est pas perdu d'avance face à quelqu'un qui de toute façon s'en moque de mourir?
Alors, je suis pas d'accord parce que même qu'ils soient isolés ou non, on sait très bien que les services de renseignement internationaux, tels que les services de renseignement russes et américains, sont quand même très puissants, et que l'échange des informations peut apporter des solutions en direct. Ça se trouve, les Russes, on ne sait pas, les Russes étaient au courant et ils n'ont eu aucun accès à pouvoir prévenir les Britanniques. C'est une supposition, mais le problème, c'est qu'une seconde dans ce combat titanesque, j'appelle ça le sida de l'humanité, une seconde de gagner, c'est combien de vies gagnées?
C'est des vies sauvées, c'est des vies sauvées. Voilà.
Et je vais poser la question à Didier. Didier, le problème, au fond, c'est pas de renforcer la sécurité, c'est plutôt de renforcer le renseignement.
Absolument. D'ailleurs, votre auditeur, je suis d'accord avec lui. Monsieur Poutine est ce qu'il est, mais sans une collaboration au niveau de tous les États, on n'arrivera à rien. Ce serait un progrès énorme. Regardez, il y avait la guerre des polices à une époque. Il y avait un film qui avait été très bien fait avec Claude Brasseur à l'époque sur ces services qui collaboraient entre eux. Rien qu'au niveau national, le fait d'échanger les renseignements, c'est déjà énorme. Alors, si on peut le faire à l'échelle européenne ou mondiale, ce serait extraordinaire.
Oui, si on commençait déjà à l'échelle européenne, ce serait bien.
Oui, ce serait déjà très bien, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec ça, oui.
Merci beaucoup, Didier, Patrick. Et Eric, qui nous appelait de Newcastle. On vous remercie. On aura évidemment l'occasion d'y revenir dans nos prochaines éditions. Là, on va marquer une pause. Et si vous êtes un jeune chef d'entreprise, un chef d'entreprise, un patron de PME, de TPE, voire de toute petite entreprise, et que vous êtes soulagé à l'idée d'apprendre ou de comprendre que l'impôt à la source, de toute façon, ne se fera pas au 1er janvier prochain, eh bien, c'est le moment. Vous faites le 32-10 et vous pouvez exprimer votre satisfaction ou alors votre déception, pourquoi pas, sur RTL. À tout de suite.
RTL midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Rebière.
Vincent Parisot.
Invité des auditeurs ont la parole. Geoffroy Roude-Bézieux, vice-président délégué du MEDEF, chargé notamment des questions économiques et fiscales. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour dialoguer avec les auditeurs d'RTL sur ce qui ressemble un petit peu à un enterrement de première classe ou tout au moins une voie de garage pour le prélèvement de l'impôt à la source qui devrait entrer en vigueur au 1er janvier prochain. Ce matin encore, Gérald Darmanin, le nouveau ministre de l'Action et des Comptes Publics, a été finalement assez clair.
Ce que vous avez compris, c'est qu'il ne sera pas de source de complexité supplémentaire pour les entreprises. Si c'est le cas, si on constate que c'est une source de complexité très importante, nous ne le ferons pas ou nous le ferons de façon décalée.
Alors, est-ce que c'est une source de complexité pour les entreprises, Geoffroy Roude-Bézieux ?
Oui, alors, juste en 10 secondes, le MEDEF, les entreprises ne sont pas forcément compte qu'on paye ses impôts l'année où on gagne.
Ça serait même plus logique.
Ça serait plus logique et ça supprime ce qu'on appelle une épargne de précaution, c'est-à-dire le fait qu'on retient un peu son argent pour payer l'année prochaine. Maintenant, il n'y a aucune raison que ça soit les entreprises. Et c'est une source de complexité. Pourquoi ? Alors on me dit, tous les autres pays l'ont fait. Mais oui, ils l'ont fait dans les années 50-60 et pour une raison qui n'était pas du tout celle-là, pour éviter la fraude, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Aujourd'hui, comme vous le savez, les déclarations sont pré-remplies. Par contre, la France a une particularité, on a un impôt familial, donc le taux d'impôt, ce n'est pas le taux de l'individu,
c'est le taux du foyer fiscal.
On a 7 ou 8 tranches d'impôts et on a plus de 200 niches fiscales. Et donc, Bercy a inventé un truc unique au monde qui est le taux individuel qu'on peut changer tous les mois. Et donc, vous sentez comme moi l'usine à gaz qui va arriver, avec en plus, et on peut le déplorer, la multiplication des contrats courts, les embauches en cours de mois, etc., etc. Donc nous, on est philosophiquement d'accord pour payer l'impôt l'année où on gagne l'argent, mais par contre, pas philosophiquement d'accord pour que ça soit le patron qui soit le percepteur.
Donc ça reste à l'État de lever l'impôt.
Mais il y a une solution, c'est ça qui est terrible. Et c'était dans le rapport de Bercy, c'est qu'on peut faire l'impôt contemporain, mais on peut garder le même système de prélèvement mensuel ou trimestriel qu'il y a aujourd'hui. Pas besoin de passer par les entreprises.
C'est, voilà, Bercy, c'est Bercy qui le fait.
Et pourquoi ? Parce que derrière, il y avait une autre idée qui était de fusionner CSG et RPP.
Oui, or, c'est plus le cas.
Or, c'est plus le cas, donc il n'y a plus besoin de le faire. Et dernier point qui est important...
Oui, mais vous trouvez que ça reste utile quand même, vous le disiez vous-même.
Oui, le principe de la... ça s'appelle la contemporanéité de l'impôt, c'est compliqué. Mais je vais plus loin. Maintenant que l'année blanche a démarré, les contribuables, depuis le 1er janvier 2017, ils savent qu'il y a une année blanche. Il faut maintenir cette année blanche. Donc il faut maintenir au 1er janvier 2018 la contemporanéité de l'impôt, mais ne pas passer par les entreprises.
Vous croyez que ça sera possible,
c'est ce
que
Mais bien sûr. Mais Bercy, en revanche, nous l'a confirmé.
Non, mais c'est très très court,
mais
là.
Mais on ne change rien. on passe par le prélèvement mensuel trimestriel. Mmh. Simplement, l'acompte que vous payez aujourd'hui vers le 15 mars, il ne compte pas pour l'impôt 2017, il compte pour l'impôt 2018.
C'est ça. Écoutez, c'est intéressant parce que Stéphane nous appelle, il est chef d'entreprise du côté de Rouen. Je voudrais savoir ce qu'il en pense. Bonjour Stéphane.
Oui, bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Écoutez, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient de se dire. Oui. Effectivement, ça on donne une complexité supplémentaire aux chefs d'entreprise. Parce que qu'est-ce que c'est que l'impôt à la source ? Là, ce qui est mis en place, c'est plus ou moins un impôt mensuel, c'est-à-dire une mensualisation.
Oui, le prélèvement mensuel de l'impôt sur le revenu directement sur la feuille de paye. C'est
d'accord,
ça le principe.
Mais pourquoi pas le faire en dehors de l'entreprise ? Parce que c'est exactement la même chose. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le salarié, quand il va voir sa fiche de paye, on va lui enlever l'impôt sur le revenu. Finalement, le net va encore diminuer. Donc, ça crée l'image. On parle toujours de pouvoir d'achat, là, tout de suite.
Est-ce que c'est pas une des raisons principales, surtout au moment où le nouveau président a annoncé qu'il allait y avoir une baisse des charges sociales et donc que les salariés, normalement, devraient voir leur fiche de paye augmenter ?
Bien sûr. Non, je pense que c'est un point important. Votre auditeur a tout à fait raison. Là, qu'est-ce qui va se passer au 31 janvier 2018 ? Pas au 1er, mais au 31 ou 2 février, quand on touche. On va avoir non pas un net, mais un super net, quoi. Un net net. Et en moyenne, on a fait un petit calcul, c'est à peu près 10% le taux moyen. Sur un salaire médian qui se situe autour de 2200 euros, ça veut dire 200 euros en moins sur la feuille de paye. Alors, effectivement, qui correspond à un impôt. Et donc, très clairement, qui, dans les PME, TPE, pas dans les grands groupes, le salarié va aller voir pour poser des questions, se plaindre, réclamer, voir une augmentation de salaire, c'est le patron.
Oui.
C'est pas le
la colère rentrée qu'on peut nourrir vis-à-vis du fisc, on va la nourrir après vis-à-vis de son patron.
Je parle pas de colère rentrée, c'est vous qui le dites.
Que certains peuvent nourrir une fois par an vis-à-vis du fisc.
Et on comprend, si vous voulez, il y a un moment où il y a une affaire de pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat de nos salariés, nous, ça compte parce qu'effectivement, le climat social compte. On parle vraiment là des TPE, des PME, c'est là où ça va jouer. Bien sûr, les grands groupes sont organisés sans parler des complexités.
Oui, Stéphane, vous voulez dire quelque chose ?
Oui, ce qui est déjà le cas d'ailleurs, parce que quand on regarde entre le salaire disponible pour un salarié, ce que verse l'entreprise, charge, le salaire brut plus les charges patronales, et par rapport à ce que touche actuellement le salaire net, la personne est déjà taxée à 50%, il faut le savoir. Le salarié touche 50% de ce que, entre guillemets, du salaire disponible, ou ce que coûte le salarié à l'entreprise.
Stéphane, on fait une petite pause de pub. Vous restez avec nous, on poursuit cette conversation avec vous dans un instant.
RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Rebière.
Vincent Parisot.
On parle toujours du prélèvement de l'impôt à la source avec vous au 3210. Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, a dit ce matin sur RTL qu'il ne fallait pas que ce soit une source de complexité pour les entreprises. Alors nous sommes toujours avec Geoffroy Roux de Bézieux, vice-président délégué du MEDEF, et avec Stéphane, qui est chef d'entreprise à Rouen. J'avais une petite question, Stéphane. Est-ce que vous aviez déjà adapté votre logiciel de paye pour prendre en compte ce prélèvement ? Pas encore ?
Pas encore, non.
Vous attendiez que ce soit vraiment obligatoire parce que vous êtes dit il y a peut-être une chance que ça passe pas.
exactement.
Vous avez vous l'avez bien senti.
À chaque année, on est obligé de changer le système de paye parce que chaque année, vous connaissez la stabilité fiscale en France. Chaque année, on est obligé de le refaire de toute façon. Donc là, il était urgent d'attendre.
Non. Visiblement, on va attendre au moins un an, semble-t-il, et peut-être un peu plus. On va demander ce qu'en pense Julien. Ça, c'est intéressant du côté de Strasbourg de retrouver Julien, parce qu'il est à la fois chef d'entreprise et expert comptable. Bonjour Julien.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci.
Qu'est-ce que vous pensez de cet enterrement, alors peut-être provisoire, mais en tout cas...
De ce report, au moins.
Au moins de ce report.
Alors, je ne vais pas dire ce qui a déjà été dit, qui est déjà très intéressant et très positif pour moi, selon ce qui a été dit. Maintenant, moi, ce qui m'embêtait plus, c'était l'histoire du taux neutre.
Expliquez-nous.
De mise en place. Il s'avérait que, comment ça va se passer ? L'administration va transmettre le taux de prélèvement pour chaque salarié à l'employeur.
Oui.
Et l'employeur doit l'appliquer à la fiche de paye. Mais le salarié a la possibilité de demander le taux neutre
pour...
Ah oui, parce qu'on n'a peut-être pas envie que son patron sache comment on est imposé.
Mm-hmm. Imaginez l'usine à gaz, dans des petites PME de 5-6 salariés, ça irait, mais imaginez dans des grandes PME, on va avoir chaque salarié pour lui demander quel taux il est qu'on applique. Déjà, ça va prendre du temps à la mise en place. Et moi, derrière, les témoignages que j'en ai eus avec l'administration fiscale, aujourd'hui, le recouvrement de l'impôt sur le revenu, il est proche de 98%.
Ouais.
Donc, si à la limite, on ne recouvrait pas l'argent, admettons, je veux bien, mais aujourd'hui, l'argent, il est recouvert à près de 98%.
Donc on ne va rien y gagner, c'est ça?
Bah, deux points. Est-ce que les entreprises en faillite qui ne vont pas reverser l'impôt sur le revenu qu'elles collectent, sachant que les entreprises ne sont pas forcément aujourd'hui tous en très bonne santé? Certaines reversent déjà pas l'URSSAF ou les cotisations retraite, est-ce qu'elles vont pas non plus jouer?
Et pourtant, Julien, c'est quand même un système, l'impôt à la source récolté par les entreprises, qui vous aurait donné du boulot, non, dans votre secteur?
Ouais, mais vous savez, il y a du boulot facturable et du boulot non facturable. Et moi, c'est quelque chose que je vois pas comment j'aurais dit à mon client, pour ça que tu te payes, j'ai facturé 10 euros par paramétrage. Il y a deux ans, on a mis en place la DSN, je vais pas vous expliquer, voilà, c'est très technique. Ça fait tout le remodelage des cotisations pour que ça soit prélevé par une seule caisse et après reversé à toutes les autres caisses.
Pour que ce soit plus simple, quoi, en fait.
Pour que ce soit plus simple. Il y a plusieurs phases. On a la phase 3 aujourd'hui. La phase 3 ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas et aujourd'hui, c'est catastrophique. On ne sait pas comment on va faire pour avancer.
Donc plutôt soulagé quand même de ce report, Julien, si je vous comprends bien.
Non, je dis juste qu'il faudrait simplifier d'abord le système en avant. Avant de comment vouloir engendrer de nouvelles cotisations, de nouveaux prélèvements faits par les entreprises.
Geoffroy Roux de Bézieux.
Oui, un commentaire sur le taux neutre. Hein, il ne concerne pas simplement une demande du salarié. C'est aussi tous les cas de contrats courts ou de nouvelles embauches. Puisque quand un salarié arrive, on n'a pas son taux. Donc on est le seul pays au monde à avoir inventé ça. C'est une complexité énorme qui va créer effectivement plein de problèmes.
Oui, et en même temps, il faut bien ça pour respecter un peu la vie privée de salariés.
Le problème, c'est que comme le taux est familial et pas individuel, on est le seul pays au monde à avoir ce taux-là, ça pose problème. J'ajoute un point très intéressant de lire le rapport de 430 pages qu'a fait Bercy là-dessus, que j'ai lu en extrait. Allez, je dis la vérité. Il est dit très clairement, ce n'est pas fait pour faire des économies. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de suppression de postes qui sont liées. On pourrait dire, comme les entreprises font le boulot, il y a moins de gens à Bercy. Ce n'est pas fait pour améliorer le recouvrement de l'impôt. Monsieur l'a dit tout à l'heure. Il y a même un risque de baisse du recouvrement de l'impôt. Donc, pourquoi c'est fait? La seule raison objective, c'est encore une fois de faire payer l'impôt l'année où on le gagne. Et ça, il y a un autre moyen d'y répondre. D'ailleurs, c'est listé dans le rapport de Bercy. S'il y a un autre agenda derrière... il faut le dire. Sinon, il faut effectivement passer par le système actuel, prélèvement ou à compte trimestriel.
A priori, on se dit que c'est plus juste ce système comme ça, puisqu'effectivement, on paye au fur et à mesure de ce qu'on gagne et pas avec une année de retard. Parfois, ça crée des situations terribles.
Bien sûr, ça évite les problèmes d'une année sur l'autre où il y a des pertes d'emploi ou autre.
On donne la parole à Catherine parce qu'il veut juste peut-être rectifier quelque chose qui a été dit. On va l'écouter parce qu'elle travaille au ministère des Finances, Catherine. Ah. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bienvenue, Catherine.
Merci. Oui, donc en fait, tout à l'heure, votre invité donc, a pris un exemple d'une personne qui avait environ 2000 euros de revenus et pour lequel on aurait donc un prélèvement de 10%. Donc je pense que ce chiffre est à vraiment prendre de façon très modérée puisqu'en fait, on ne connaît pas aujourd'hui encore le taux de prélèvement de chacun des contribuables puisqu'en fait, il va être calculé pour la première fois avec la déclaration fiscale qui va être faite là, donc en 2017. Ouais. Donc on ne peut pas avancer un chiffre comme ça. Un salaire de 2000 euros, ça ne veut pas forcément dire un prélèvement de 10%, puisqu'en fait, on va tenir compte, donc si cette personne est mariée, a des charges de famille, donc en fait, il y aura un taux en fait par contribuable et donc qui va être calculé prochainement. Donc au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire d'office, quelqu'un qui a 2000 euros de salaire aura donc 200 euros.
Donc pour l'instant, on ne sait pas très bien où on va. Quand
vous
même.
Chipotez un peu, Catherine, si je peux me permettre, c'est important.
Oui, parce que par exemple, on ne peut pas dire à tous vos auditeurs que donc quelqu'un qui gagne 2000 euros aura 200 euros de prélèvement d'impôt, c'est faux. Il faut aussi relativiser par rapport à la situation de chacun. D'autant plus difficile à mettre en œuvre un prélèvement, comme vous aviez l'air de suggérer, mensuel pour les usagers l'année prochaine, puisque donc en fait ça obligerait le contribuable à adhérer au système de la mensualisation. On ne peut pas obliger aujourd'hui un contribuable à adhérer au système de la mensualisation, donc c'est très difficile à mettre en place.
Ouais.
Aujourd'hui, ce que j'entends dans les commentaires qui sont faits, c'est qu'effectivement, l'impôt devrait être pris à la sur le compte bancaire de l'usager comme une mensualisation. Mmh. Or, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est volontaire. On ne peut pas obliger un contribuable à se mensualiser. Aujourd'hui, on a encore énormément de contribuables qui payent leur tiers provisionnel, qui ne sont pas du tout mensualisés et qui sont surtout contre le prélèvement mensuel.
Vous laissez répondre Geoffroy Roux-de-Bézieux.
Oui, bonjour madame. J'ai pris cet exemple de 2000 euros et de 10% comme une moyenne. Évidemment, chaque cas est particulier, mais c'est bien le problème. Oui. C'est bien cette individualisation de l'impôt qui fait que quelqu'un qui gagne 2000 euros pourra payer 10% ou zéro, ou peut-être beaucoup plus si son mari ou sa femme gagne de l'argent. Donc c'était un exemple pour vous dire simplement qu'il y aura, à partir de janvier 2018, un net-net qui n'existe pas aujourd'hui. Mmh. Et je me permets de vous dire que le consentement à l'impôt, quand l'impôt n'est plus payé directement, à mon avis, est un vrai sujet républicain dans l'avenir. En ce qui concerne, je vais finir ma réponse. En ce qui concerne la solution que propose le MEDEF, c'est pas le prélèvement mensuel obligatoire. J'ai été très précis. J'ai dit soit le prélèvement mensuel, soit l'acompte trimestriel. Mmh. Donc on veut pas imposer le prélèvement mensuel. Et je me permets de dire que vous êtes en train d'imposer aux entreprises quelque chose qu'elles ne souhaitent pas. Donc non, je ne sais pas qui impose quoi, mais manifestement, ce n'est pas de notre côté que ça vient.
J'applique la réglementation de mon ministère. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'on a tous été formés, l'ensemble des agents du ministère a été formé à la retenue à la source, donc on a investi certainement beaucoup d'argent.
50 millions d'euros au moins. Il y a au moins déjà 50 millions d'euros qui ont été dépensés pour cette formidable gâchis d'argent public.
Voilà, le temps de formation consacré par chacun des agents du ministère, donc c'est vrai que c'est un temps énorme, et donc c'est vrai que en tant qu'agent, nous, on se pliera bien évidemment à la décision ministérielle, mais c'est vrai que...
Vous travaillez sur cette réforme, vous, depuis un an, Catherine, à peu près, c'est ça ?
Non, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, je travaille concrètement dans une trésorerie qui recouvre l'impôt.
Mais vous avez eu une formation qui a commencé depuis un an autour de cette réforme ?
Non, c'est-à-dire qu'on vient d'être formé il y a environ 2 mois sur le sujet. Et donc, tous les agents ont été formés aujourd'hui.
Ah oui, on dit que ça a déjà coûté au moins 50 millions d'euros à l'État.
Oui, tout à fait.
Merci d'avoir témoigné, Catherine.
Merci de cette précision.
Merci, au revoir.
À bientôt, bonne journée.
On fait une pause.
Bah oui, et puis c'est toujours à vous, 3210, chef d'entreprise, fonctionnaire du ministère des Finances. On vous écoute.
RTL Midi, 12h30, 14h.
Les auditeurs ont la parole.
Christelle Rebière.
Vincent Parizeau.
Avec Geoffroy Roux-de-Bézieux, le vice-président délégué du MEDEF. Hein. On parle de l'impôt à la source qui a du plomb dans l'aile, sérieusement. On en a eu confirmation encore ce matin avec Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics sur RTL. En gros, ils disent, le gouvernement dit, on va regarder comment ça se passe là dans les prochains jours. D'ici quelques jours, on vous donnera la réponse. Mais si c'est trop complexe pour les entreprises, eh bien, on le reportera au moins d'un an. Donc, visiblement, ça serait compliqué. Et ce qui est compliqué en France ne l'est pas ailleurs. Bonjour, Joël.
Oui, bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Vous êtes en Moselle, hein, du côté d'Amnéville.
C'est bien ça, oui.
Et vous travaillez pour une société luxembourgeoise.
Voilà. Et nous, on a le prélèvement à la source et ça se passe très, très bien. Et quand j'entendais votre personne qui discutait là, quand on est prélevé 200 euros peut-être par mois, bon, c'est un chiffre qui est un peu exagéré, mais même si on est retiré 200 euros par mois, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de l'année, on n'a pas un salaire complet à sortir. Et ça facilite beaucoup plus le budget des gens.
C'est indolore en fait.
Si voilà, tout
dire,
à fait.
Si
oui, voilà. C'est ça. Vous n'avez pas la grosse somme à sortir, vous n'avez pas le tiers ou.
Voilà, exactement. Ou autre à ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle le salaire net d'impôt. Mmh. Et on a ça 12 mois de l'année. On vit très, très bien.
Pour vous,
ça,
c'est plus confortable.
Tout
Joël.
À fait. Ouais. Tout à fait. C'est pour ça que moi, d'ailleurs, j'ai quitté un petit peu le système français pour travailler à l'étranger. Parce qu'il y a, sans compter les avantages fiscaux et pour la retraite et tout ça, mais déjà rien que le prélèvement à la source, c'est une autre façon de vivre.
Non, restez avec nous, Joël. C'est vrai, Geoffroy Roux-de-Bézieux, que psychologiquement, pour le salarié, c'est quand même plus confortable.
Mais il y a une manière simple de raison, c'est se mettre au prélèvement directement par le fisc. Il n'y a aucune raison que ça passe par l'entreprise. Je ne connais pas le système d'impôt luxembourgeois.
On n'a même plus à faire une déclaration d'impôt.
Bien sûr que si.
Ah si, il faut en faire une en parallèle. Oui,
bien sûr que si. Alors là, il y a eu une espèce de non-dit du gouvernement précédent. La déclaration d'impôt, elle continue. Mmh. Ça a été finalement expliqué. Mmh. Je ne connais pas le système d'impôt luxembourgeois, mais je crois que l'impôt, il est individuel. Donc, Joël, il paye l'impôt sur ses revenus à lui.
Tout à fait, oui.
Mmh. Voilà. Mais la différence, c'est qu'en France, c'est familial.
C'est familial. Ouais, c'est le foyer fiscal.
Le foyer fiscal.
Il aurait peut-être fallu sortir de ça dans un premier temps.
Oui, mais là, ça change complètement la politique familiale. Et puis, en France, il y a plus de 200 niches fiscales. déductions d'impôts diverses et variées. Donc très concrètement, ça veut dire que le taux, il varie à l'infini. C'est pour ça qu'on a créé ce système de taux individuels. Prenez la CSG. La CSG, elle est prélevée sur la feuille de paye. Il y a trois taux, d'accord ? Aucune niche fiscale, et donc ça marche très bien. Ça, c'est faisable, parce que c'est comme une ligne de cotisation sociale. On peut discuter après de la philosophie de consentement à l'impôt, mais ça marche. Mais l'impôt sur le revenu, ça n'est pas ça en France aujourd'hui.
Mmh. Je vous interromps un instant pour une information qui nous parvient à l'instant et sur laquelle on va revenir tout à l'heure, évidemment, dans un quart d'heure dans le flash, c'est que Daesh, le groupe État islamique, vient à l'instant de revendiquer l'attentat de Manchester via son agence de propagande. On y reviendra, évidemment.
Oui, Joël, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Oui, je dis, c'est ça. En France, le problème, c'est qu'on n'arrive jamais à simplifier les choses. Et on va toujours chercher plus compliqué que dans les autres pays où ça marche vraiment mieux qu'en France.
C'est une spécialité.
Dès l'instant
française.
Qu'on fait l'impôt par rapport à l'individu et non sur la famille, ça se passe super bien.
On écoute Elisabeth qui nous appelle de Biarritz. Bonjour Elisabeth.
Bonjour.
Chef d'entreprise, hein. Combien de salariés, Elisabeth ?
Nous sommes 10.
D'accord.
Alors, comment voyez les choses ? J'imagine que vous êtes soulagée, non ?
Ah, moi, je suis terriblement soulagée parce qu'en plus, j'ai une entreprise qui fait de la paye.
Oui.
Des bulletins de salaire pour des particuliers, pour des entreprises.
Ah oui, donc d'accord. Là, vous étiez au cœur du réacteur, là.
Ah, complètement. Complètement. J'avoue que on était très à l'affût. Nous sommes vraiment... Nous avons un système qui est tellement complexe au niveau du social que c'est pratiquement ingérable. Un expert comptable parlait tout à l'heure des DSN, qui sont ces déclarations sociales nominatives que l'on fait maintenant mensuellement. Nous sommes en phase 3. Nous avons été obligés d'y passer depuis juillet l'année dernière. Et là, depuis janvier, c'est obligatoire pour toutes les entreprises en France. Mais c'est le même principe. C'est absolument pas au point. C'est-à-dire qu'on lance quelque chose et les entreprises, les particuliers doivent se mettre au service de l'administration et non plus l'inverse. C'est ça qui me paraît aberrant. Donc, on est
vous voulez dire que le gouvernement précédent a lancé le processus sans savoir si les entreprises pourraient
tout à fait,
le faire.
Tout à fait. Et moi, je suis au cœur de cette DSN. Pour moi, c'est le même principe, si vous voulez. On lance un système qui, à terme, sera vraiment bien. Ça, il n'y a pas de problème de faire une seule déclaration. Mais on en est loin. On en est très loin. Et c'est une génération de d'heures supplémentaires des entreprises, le nombre d'entreprises qui ne peuvent, de petites entreprises qui faisaient leur bulletin de salaire avec un petit logiciel X, Y, ne peuvent plus.
C'est devenu trop complexe.
Mais c'est ça.
Oui, oui. Et pour en revenir à cette histoire d'impôt de prélèvement à la source, Geoffroy Roux de Bézieux, il y a un décret qui a été publié, mais la semaine dernière, la semaine d'avant, mais
c'était
dans les toutes dernières heures.
C'était le testament de M. Eckert.
Voilà, exactement.
Qui voulait, j'allais dire, marquer son territoire.
Qui imposait l'application à partir de la fin de l'année.
Je rebondis sur ce que dit votre interlocutrice, votre auditrice. La DSN, donc cette fameuse DSN, on a mis 7 ans à la mettre en place. 7 ans. Là, le prélèvement à la source, 2 réunions de concertation à Bercy. On a été invité 2 fois. Les autres organisations professionnelles aussi. Donc c'est pas sérieux.
C'est arrivé en termes de rapidité. Sur la fin du quinquennat.
Exactement.
Il y aurait eu une logique à ce que ce soit éventuellement lancé au début du quinquennat de François Hollande.
Encore une fois, nous on est contre philosophiquement, mais si on est républicain, donc si ça avait été voté, si c'était prévu, il aurait fallu le faire dans la concertation pour pas créer des bugs infinis dans les entreprises. Et madame a tout à fait raison. Donc nous on attend une loi rapide, parce qu'il faut le faire vite.
Il faut déjà défaire
voilà,
le décret qui vient d'être publié.
Exactement, et il faut que ces lieux, effectivement, dans les 2 mois qui viennent, pour que les entreprises sachent, entre guillemets, à quelle sauce elles vont être mangées. Mais j'ai trouvé, il y a une phrase qui est très bonne, c'est « l'administration impose ». Or, moi, j'ai lu dans le programme d'Emmanuel Macron que l'administration allait te mettre au service des entreprises
on va voir.
Et des citoyens. Et ça serait c'est ce qui existe en Europe du Nord. Et ça serait un changement. C'est plus qu'un changement. C'est une espèce de révolution culturelle invraisemblable. Mais si ça commence par le prélèvement à la source, ça serait bien.
Eh bien, on verra. Et on vous invitera à ce moment-là, Geoffroy Roux de Bézieux.
Fêtez ça.
Vice-président délégué du MEDEF. Merci à tous ceux qui ont fait le 32-10. On est désolé, Valérie, de ne pas avoir eu le temps de vous prendre sur cette question. Mais je sais que vous aurez l'occasion de nous rappeler. On va marquer une pause et puis dans un instant, on va se détendre un peu les zygomatiques. Ça vous dit, Christelle ?
Avec plaisir.
Envoyez Laurent Gérard.
Vous écoutez RTL.